Radio Starbucks.
Morning edition from NPR News.
Lo que se reproduce y esto en la radio.
France Inter, le 18-20.
L'escale reportage d'un jour dans le monde nous emmène ce soir en Argentine dans une école, vous allez le voir, qui accueille des jeunes gens transsexuels. Sinon, c'est forcément la case prostitution. Vous découvrirez aussi qu'il existe là-bas une loi qui oblige à un quota de transsexuels dans les entreprises. Nous allons aussi notamment en Thaïlande où le Premier ministre apporte avec lui une sorte de figurine pour éviter de parler aux journalistes en conférence de presse. À 18h40, l'actu en série, le feuilleton environnement, 210 dauphins avec du corail qui vire au blanc à cause du réchauffement climatique. 18h55, l'édito du journal Le Monde à Puerto Rico avec Christophe Ayad ce soir. Mais avant, les Richard Burton et Liz Taylor d'Outre-Rhin, Angela Merkel et Martin Schulz qui, après avoir divorcé, tentent donc de se remarier encore pour éviter de nouvelles élections. Le tout avec, peut-être pour faire un peu diversion, un mouvement lancé par Iggy Metal et ses 28 heures de travail par semaine. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure, soyez les bienvenus.
Fabienne Saint-Fès, un jour dans le monde.
Voilà, ça se passe à Berlin cet après-midi, dans les rues de Berlin. Le très puissant syndicat IG Metall en manifestation qui a lancé une sorte de bras de fer, notamment pour une semaine de travail à 28 heures. Des augmentations aussi. Bonsoir Hélène Mirard de Lacroix. Pardon, bonsoir Hélène Mirard Lacroix. Ça y est, je le fais. Bonsoir.
Bonsoir.
Spécialiste de l'Allemagne contemporaine. Vous êtes professeur à la Sorbonne. On ne va pas s'attarder longtemps sur IG Metall. On y reviendra dans le journal de 19h. Mais quand même, cette revendication qui tombe pile au moment où Angela Merkel est plutôt en mauvaise posture, c'est plutôt exprès de la part d'IG Metall. Est-ce que ça tombe bien pour eux, en tout cas, ou pas ?
C'est un peu exprès et ça tombe bien pour eux. C'est-à-dire qu'en Allemagne, il y a des mouvements sociaux et des grèves seulement au moment où on renégocie les conventions. Une fois qu'une convention est négociée entre, à l'intérieur d'une entreprise,
donc
ou
c'est
d'une branche,
jamais, en gros.
Comme là, une énorme branche qui est toute la métallurgie, l'automobile, etc. Et bien, une fois qu'on est tombé d'accord pour 18 mois à 2 ans, ben on ne fait pas grève, on ne discute pas. Or là, la convention collective doit être renégociée et ça tombe juste au moment des pourparlers en vue de formation de gouvernement. Donc ça permet à IG Metall, qui est traditionnellement plutôt du côté du SPD, de faire entendre un petit peu sa voix.
Mais du coup, est-ce que ça déstabilise un peu Angela Merkel ? Est-ce que ça pèse dans les négociations ou est-ce que c'est complètement connexe ? Complètement annexe plutôt d'ailleurs ?
Non, c'est pas annexe, ça va peser un tout petit peu, c'est-à-dire que ça va en effet renforcer un petit peu le SPD qui est que Angela Merkel est venue chercher après avoir échoué dans la formation d'un gouvernement avec une autre coalition. Il y a surtout, si vous voulez, dans cette tentative de faire un nouveau gouvernement, l'idée qu'on recommence avec les mêmes, mais si possible pour pas faire la même chose, parce que sinon, on aurait réussi dans tous les domaines. Et c'est là, si vous voulez, que le SPD peut être un petit peu plus présent et avec cette revendication sociale plus forte, en disant bon, si on refait la même chose, il faut que les gens soient moins mécontents et qu'ils cessent d'aller voter vers des extrêmes et qu'ils reviennent vers nous.
En même temps, les gens sont pas très dupes non plus, non ? Qu'est-ce que vous en dites ?
Non, les gens ne sont pas dupes en effet, mais en même temps, le programme de gouvernement, vous savez, c'est la règle du jeu en Allemagne, c'est-à-dire que différents partis doivent se mettre d'accord sur un ensemble de grandes lignes, qui est une espèce de texte qu'on écrit, et après, ce sera la politique commune, le programme commun du gouvernement. Oui, les gens ne sont pas dupes, et en même temps, bon, c'est la règle du jeu. Il y a plusieurs forces qui sont là, et qui essaient d'occuper le terrain, et de tirer un avantage.
Mais en même temps, est-ce qu'on peut dire déjà que c'est un échec respectif, en fait, finalement, pour Angela Merkel, qui n'a pas réussi à faire une autre coalition, qui a bien tenté jusqu'au mois de novembre avec les libéraux et les verts, et puis qui a jeté l'éponge, et puis Martin Schulz, qui avait juré qu'on n'y reprendrait pas, et qui retourne. Donc, est-ce que c'est un échec pour les deux, finalement?
Alors, on peut le prendre comme ça, on peut le prendre en même temps comme une forme de réalisme ou de pragmatisme. À partir du moment où, en effet, l'un avait dit « je vais dans l'opposition », se sent obligé par devoir démocratique de répondre à l'appel et d'essayer de former un gouvernement. Et puis à partir du moment où la chancelière n'a pas réussi, en effet, cette combinaison très très étrange avec plusieurs partenaires, ben, il faut bien qu'ils y arrivent. Donc c'est assez allemand, si vous voulez ça, de dire bon, « ben, il faut y arriver, on va mettre les choses sur la table, simplement, au moins que ce soit mieux que la précédente fois. Simplement, celle qui est en position difficile, c'est Angela Merkel. Parce qu'avec la CDU, elle se trouve vraiment au milieu entre SPD de Martin Schulz, mais la CSU de Bavière qui est toujours là. Et dans les différents dossiers qui sont en train de commencer à négocier, on voit à chaque fois qu'elle est très très centrale ou centriste, si vous voulez, et elle pourrait à peu près se mettre d'accord avec l'un ou l'autre, mais c'est toujours la dissension entre la CSU de Bavière qui ne veut pas ce que proposent les sociodémocrates, notamment en matière d'éducation ou d'Europe, et inversement, les sociodémocrates qui bloquent sur la politique de la CSU en matière de de contrôle des réfugiés.
Hélène Mière de la Croix, on va justement aller faire un tour en Allemagne rapidement, rejoindre Cyril Sauvageau. Bonsoir Cyril.
Bonsoir.
Correspondant de France Inter en Allemagne. Moi je suis curieux de savoir ce qu'on dit en Allemagne, en fait, ce qu'on dit à Berlin où vous êtes en ce moment. Comment on les regarde, ces deux dirigeants? Est-ce qu'on dit, eh ben, il était peut-être temps de vous remettre d'accord? Est-ce qu'on dit tout ça nous ennuie ou est-ce qu'on s'en fiche finalement? Parce que les chiffres de l'économie sont tellement bons, après tout. Pouf.
Oui, c'est vrai. Enfin, ce qui se dit, c'est que ça commence à bien faire. On est bientôt 4 mois après les élections, il n'y a toujours pas de gouvernement et surtout, il n'y a pas encore de certitude sur le fait que ces discussions, CDU, CSU, SPD, elles vont aboutir. Alors, ça prend toujours du temps en Allemagne de négocier une coalition, on le sait, mais là, c'est assez exceptionnel. Donc, il y a une lassitude qui d'ailleurs se reflète dans les enquêtes d'opinion. L'idée d'une grande coalition n'est plus soutenue que par la moitié des Allemands. 51%, c'est un sondage du quotidien Bild, c'est un chiffre très bas. La cote de popularité d'Angela Merkel est en baisse en ce moment, sans parler de Martin Schulz qui lui est en chute libre, autour de 30% d'opinion favorable. Donc ce feuilleton post-électoral qui n'en finit pas, et il est en train de faire des dégâts et c'est bon pour personne. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les conservateurs, les sociaux-démocrates ont voulu cette fois accélérer le tempo, entre guillemets, en se fixant seulement quelques jours de négociations, pas plus cette semaine, avant de décider s'ils sont prêts ou non à aller plus loin et à officialiser leur alliance.
Mais alors justement, qu'est-ce qu'il met sur la table, Schulz, ou plutôt à l'inverse d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il demande à Merkel de mettre impérativement sur la table ?
Vous l'avez déjà dit en partie, il va tenter d'obtenir des concessions sur le social, sur l'investissement aussi. Il a déjà dit qu'il voulait que ce gouvernement soit le plus rouge possible. Et puis peut-être aussi sur l'Europe. Ça, c'est le vrai grand sujet, la grande interrogation.
La grande discorde, surtout entre les deux.
Martin Schulz, pendant très longtemps, pendant la campagne électorale, a été extrêmement discret sur l'Europe, alors que il venait du Parlement européen. Il a pas du tout fait campagne sur l'Europe. Et puis dernièrement, il s'est réveillé et il a pris fait et cause dernièrement pour Emmanuel Macron et ses propositions de réforme de la zone euro. Il va falloir voir s'il met vraiment ce sujet-là sur la table et surtout quelle est la réaction d'Angela Merkel et de son parti.
Alors il y a une dernière chose, Cyril, qui nous a frappé d'ici, c'est l'objectif de réduction de CO2 qui a été remis non pas au calendrier grec, mais en tout cas à une bonne vingtaine d'années derrière de la part de l'Allemagne. C'est quand même un drôle de truc, ça, non ?
Non, mais c'est pas une grande surprise, à vrai dire. C'était à peu près évident depuis quelques mois que l'Allemagne n'y arriverait pas à remplir cet objectif, c'est-à-dire moins 40% des émissions de CO2 en 2020 par rapport à 90, mais ça n'avait jamais été dit officiellement. Cette fois, il semble que tout le monde soit d'accord là-dessus, puisque donc, dans les négociations, ils ont acté le fait qu'on va se concentrer maintenant sur un autre objectif qui est 2030, avec cette fois une baisse de 55%. C'est ce qui a fuité des négociations, et ils souhaiteraient mettre en place une commission sur l'avenir du charbon, ça c'est le sujet extrêmement sensible en Allemagne, commission qui serait notamment chargée de fixer, et c'est pas le cas aujourd'hui, une date de sortie du charbon.
Cyril Sauvageau, merci beaucoup, vous restez avec nous, vous pouvez intervenir quand vous le voulez. Hélène Mière de la Croix, ce qui les sépare vraiment, ces deux-là, est-ce que c'est l'Europe en fait? Est-ce que c'est la zone euro, le fameux ministre des Finances de la zone euro que Schulz voudrait, Merkel n'est pas d'accord? Est-ce que le point d'achoppement c'est vraiment là?
Comme je disais tout à l'heure, le point d'achoppement il marche plus là aussi avec la CSU. C'est-à-dire que ceux qui bloquent le plus là, dans l'idée d'une gouvernance, si vous voulez, un gouvernement de la zone euro, c'est la CSU. Angela Merkel, elle, qui est plutôt au centre-gauche de son parti, serait prête à faire des concessions et avancer. Parce que on a quand même eu l'impression à Berlin et en Allemagne en général que là, on avait les Français qui, avec Emmanuel Macron, quelques jours après les élections allemandes, à la Sorbonne, fait des grandes propositions et dit bon, alors je vous attends, et qu'on ne peut pas indéfiniment comme ça, alors qu'on a dit qu'on était des grands Européens et que le consensus allemand est autour de l'Europe fondateur, si vous voulez, qu'on ne peut pas indéfiniment laisser lambiner les autres.
Mais c'est pour ça qu'on a l'impression que cette attente, cette longueur, finalement, elle nous intéresse plus nous qu'elle l'intéresse presque les Allemands d'une certaine façon. Ou en tout cas, elle nous inquiète plus nous qu'elle les inquiète eux.
C'est-à-dire qu'elle inquiète en France parce qu'on a l'impression qu'on perd du temps, tout simplement, et que les projets qui sont probablement faisables et très certainement dans les tiroirs. Et bon, alors il est probable que le 22 janvier, ce sera l'anniversaire du traité de l'Élysée, du traité franco-allemand d'amitié, certains nombres de propositions bilatérales soient faites, on a essayé de relancer cette idée de moteur pour les autres Européens. Mais en Allemagne, c'est peut-être moins l'inquiétude sur on perd du temps sur l'Europe qu'on perd du temps.
Tout court,
c'est-à-dire que là c'est quand même pas possible de
rester... Ça fait plus de 100 jours, on va rappeler que c'était le 24 septembre.
24 septembre, de rester sans gouvernement. Alors il y a un gouvernement qui gouverne, si vous voulez, mais on peut pas, le gouvernement peut pas proposer un budget, donc que le Bundestag ne peut pas voter, donc les différentes administrations anticipent en disant bon, on va a priori avoir la même chose, mais on n'est pas tout à fait sûr, et c'est pas bon pour un pays d'être au ralenti.
Avec quand même des compromis sur la fiscalité qui ont déjà été passés, avec là, tout récemment, ça vient de tomber un accord sur l'immigration qualifiée, donc on a bien le sentiment quand même qu'ils ils ont bien compris l'un comme l'autre que leur intérêt était de s'entendre.
De toute façon.
Que certainement pas, l'intérêt n'était certainement pas de refaire une élection de toute façon.
De toute façon, parce que là, les derniers sondages, voilà. Sauvageau évoquait des sondages, il y en a d'autres à l'intérieur de ces sondages-là, qui montrent que s'il y avait maintenant de nouvelles élections, les grands perdants seraient le FDP, c'est-à-dire les libéraux qui ont un petit peu bloqué et se sont mis en travers de la négociation pour une coalition jamaïcaine, et puis que l'AFD, en revanche, la droite populiste, gagnerait encore des points, que le SPD resterait en dessous de 20%, et que donc c'est pas très très bon signe, si vous voulez.
Mais
l'idée de repartir devant les électeurs n'arrangerait pas les choses. C'est certain, il faut qu'ils s'entendent.
Alors, est-ce que quand même, on est entré dans un autre ère, en fait, déjà, en fait, est-ce que cette difficulté de trouver un accord dit qu'on est entré dans une ère qui ne sera plus jamais la même, qu'on plaide pour un renouvellement de la classe politique, que l'ère Merkel, en fait, est terminée, même si elle va au bout de ce mandat-là, qu'importe, mais que ça y est, on a changé d'ère en Allemagne.
Oui,
est-ce
je
que
pense
ça dit
que...
déjà ça.
Oui, c'est un sentiment aussi que l'on a, d'ailleurs, ce n'est pas surprenant de voir un certain nombre de jeunes quarantenaires qui commencent à s'agiter et se montrer dans les différents partis, d'ailleurs. Alors, c'est vrai que quand on voit, quand on évoque, là, dans la presse allemande ces jours-ci, les possibles ministres et qu'on réévoque, donc, Seehofer, le patron de la Bavière, qui a toujours été très anti-migrant, en disant, oui, bon, comme il va quitter le poste de patron de la Bavière, il pourrait être ministre, sauf que c'est un vieux monsieur et qu'on a un peu cette impression de reprendre toujours les mêmes et que, d'autant plus que la France a eu, avec cet effet de, entre guillemets, dégagisme, de vraiment connaître un coup de balai et faire monter des gens qu'on ne connaît pas, dont toujours les journalistes allemands doivent, comme les Français d'ailleurs, apprendre qui sont ces nouvelles têtes. Eh bien, en Allemagne, on sent que ça pousse derrière et qu'il y a cette génération, dans la CDU notamment, mais aussi au SPD qui aimerait prendre sa place.
Parce qu'on sent aussi, et vous m'arrêterez si je me trompe, que même au sein de son propre parti et de son propre gouvernement, il y a des choses qu'on dit à Merkel aujourd'hui qu'on ne lui disait pas avant. Je pense par exemple à l'épisode du glyphosate, où son ministre de l'Agriculture décide que lui, il signe, même si Angela Merkel était non seulement pas d'accord, mais surtout pas au courant à ce moment-là. Est-ce que ça aurait pu se produire avant, ça ?
Alors là, c'est un dossier un petit peu particulier parce que là, c'est un ministre, c'est pas n'importe quel ministre, c'est le ministre de l'Agriculture, mais qui est lui-même CSU de la Bavière, où il y a un lobby paysan très important. Et donc là, ce qui était en jeu, si vous voulez, c'était plus des coups dans les tibias entre la CSU et la chancelière, ce ministre n'a pas respecté la règle habituelle qui est quand on se met d'accord sur une position commune au sein du gouvernement, on la tient. Et lui a dit non, moi j'ai mon ministère, je suis indépendant dans mon ministère.
Est-ce que c'est quand même pas une manière de dire à Angela Merkel, toi aussi tu vieillis, je ne te suis pas forcément.
Oui, c'est une manière de dire qu'elle tient moins bien ses troupes qu'on est dans une période, si vous voulez, où chacune de ces forces politiques qui essaie de participer à la coalition montre ses muscles, essaye de se montrer le plus large possible pour imposer à l'intérieur du programme de gouvernement quelque chose qui la représente vraiment. Et donc, il ne l'aurait pas fait auparavant parce qu'on était à l'intérieur, si vous voulez, d'une coalition qui roulait avec un programme commun fixé. On est, et c'est pour ça que c'est drôle, parce qu'on rejoint l'histoire des syndicalistes, on est dans une phase de négociation, et quand on négocie, eh bien, on essaie de montrer qu'on est plus fort.
Et avec une Allemagne peut-être qui ne ressemble plus à Angela Merkel, au final, c'était l'Allemagne de la réunification, celle d'Angela Merkel, du renouveau économique, on est dans toute autre chose aujourd'hui, la crise migratoire l'a montré, dans une Allemagne pluri- et multiculturelle. Est-ce qu'elle a lâché le lien Angela Merkel avec les Allemands finalement ? Est-ce qu'elle l'a perdu plutôt ?
Ben vous savez, comme partout, tout change tous les jours. Certes. On change progressivement tous les jours. Sauf que, en effet, on avait avec Angela Merkel une espèce de continuité apparente, ou au moins une continuité de surface, qui a été un peu explosée de manière aussi visible avec la crise des migrants et un certain nombre de conflits qui ont été très très entendus en Allemagne. Donc c'est un peu
Mais est-ce qu'elle est toujours moutie ? C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'elle a perdu ce lien-là ?
Oui,
en fait,
elle a perdu un peu. Alors c'est très difficile à mesurer parce que bon, il peut y avoir des sondages. On voit que elle baisse un peu dans les sondages. En même temps, c'est l'attachement quand même à sa personne et aux valeurs qu'elle représente et à sa façon de gouverner, cette forme de résistance lente et solide, elle est toujours appréciée. En revanche, on ne voyait à l'époque que ces aspects positifs. Là, on voit qu'elle n'a pas eu, elle manque d'autorité et qu'elle manque de capacité de rassemblement. Et ça, c'est vrai que ça joue contre elle et c'est un peu injuste, mais on commence à voir de plus en plus ses faiblesses, son âge, le fait qu'elle soit usée.
Est-ce qu'on parie sur le fait qu'elle peut ne pas aller au bout de son mandat, même qu'à un moment, la coalition, quelle qu'elle soit, finira par exploser, avant même?
Ça pourrait se faire, ça peut même être négocié en amont. Vous savez que quand Adenauer est parti, il n'est pas parti à la fin du mandat, mais il avait été négocié au moment où avait été formée la coalition, qu'au milieu du mandat, son successeur, Ludwig Erhard, prendrait la suite. Donc, je ne pense pas que ce soit à l'ordre du jour qu'elle négocie son départ. En revanche, s'il y a certainement une chose qu'il faut qu'elle fasse, si elle veut avoir cette grandeur et de savoir bien sortir, de préparer la suite. C'est de préparer la suite. Et elle a commis, au fond, la même erreur que font beaucoup d'hommes et de femmes politiques dans différents pays, c'est-à-dire de penser au présent, de maintenir un présent qui dure et de faire un petit peu le vide autour d'elle pour éliminer les gêneurs sans que la relève soit assurée.
Ce qui est effectivement assez commun en politique, mais ça veut dire que les jeunes qui poussent derrière, est-ce qu'il y a une chance qu'on voit quelqu'un émerger dans ces 2 ou 3 prochaines années, ou il y a encore beaucoup de travail à faire?
Il y a encore du travail, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas la génération juste en dessous, c'est-à-dire ceux qui auraient 50 ans ou 52, 53 ans, vous voyez, là, on va vraiment vers fin trentenaire, début quarantenaire, avec des jeunes qui ont soit des responsabilités régionales, comme un qui est ministre-président dans le nord de l'Allemagne, d'autres qui n'ont pas réussi à avoir de responsabilités régionales, c'est-à-dire qui sont chefs de l'opposition dans une région, et qui manquent pour l'instant, si vous voulez, de surface et de capacité de conviction. Alors, bon, on dit, il y a des noms qui tombent, des hommes, des femmes, mais bon, pour l'instant, il n'y en a pas un vraiment qui apparaisse comme le successeur qui s'impose. En même temps, vous savez, les surprises, il y en a eu en France, donc pourquoi pas?
Oui, oui, ben, en France et ailleurs, même, y compris dans les pays voisins d'Angela Merkel, d'ailleurs, on pense notamment à l'Autriche et à d'autres. Est-ce que c'est la même chose pour le SPD? Est-ce que Martin Schulz est en danger? Il a un congrès le 21, autant que je sache.
Alors, il y a des gens qui poussent aussi derrière lui. Il y a notamment une femme qui pousse beaucoup, qui est Andrea Nahles, qui est une femme qui n'a fait que de la politique, qui a commencé chez les jeunes socialistes et qui était très, très à gauche dans le parti, qui l'est encore, mais moins, et qui a été mise à affaires sociales et qui dirige le groupe parlementaire SPD, qui a un langage assez clair, qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui pousse un petit peu en effet.
Mais qu'est-ce qu'on lui dit à Schulz en ce moment pour que le SPD accepte de revenir dans une coalition? Qu'est-ce qu'on lui dit dans son parti? Vers quoi on le pousse? Qu'est-ce qu'on lui demande de faire absolument?
Ben, ça dépend de quelle aile du parti on est, parce que le parti SPD, il est comme les différents partis sociaux-démocrates d'Europe, même s'il est en mauvaise forme, il y a des ailes gauches et des ailes droites. Donc non, ce qui est demandé, c'est essentiellement d'imposer sur la table un certain nombre de dossiers qui appartiennent au profil des partis travaillistes, si vous voulez. C'est-à-dire s'intéresser aux petites gens, un peu plus taxer ceux qui gagnent plus, et puis dans un des dossiers en particulier qui va venir sur la table, qui est l'élimination d'un impôt spécial qu'on appelle l'impôt de solidarité, qui est 5,5% l'impôt sur le revenu et sur les sociétés, essayer de trouver des compensations pour éviter que les plus riches, en perdant 5,5% d'impôts en plus, qui gagnent plus. Vous voyez, cette idée de réégaliser les choses et de s'intéresser aux petits et à l'éducation, c'est ça qui monte de la base.
Une toute dernière chose, histoire de boucler la boucle, Hélène Millard de la Croix, quand on entend parler de grève générale, ce qu'on n'a pas vu en Allemagne depuis 2003, lancée donc par IG Metall, est-ce qu'on peut le croire? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on en est là ou pas?
Non. Honnêtement pas. Ils peuvent faire du bruit. IG Metall peut bien bloquer le pays. Bon, à voir.
À voir. Ben, on le verra d'ailleurs tout à l'heure dans le journal de 19h, grâce à Cyril Sauvageau qui revient dans le journal de Sébastien Power. Hélène Millard de la Croix, spécialiste de l'Allemagne dans Un jour dans le monde. Merci mille fois.
France Inter. Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
Et la suite donc en Argentine avec des transsexuels, en Tunisie avec une colère qui remonte, aux États-Unis avec des puritains ignorants, le feuilleton écolo du mardi, Sandy Dauphin, bonsoir.
Bonsoir.
Et des coraux qui stressent et qui blanchissent sous les assauts du réchauffement climatique.
Ouais, oui, le réchauffement climatique accélère dramatiquement le blanchissement des récifs partout dans le monde. On parlera d'une étude qui vient d'être publiée dans Science qui confirme ce phénomène et qui parle d'une fréquence accrue.
De plus en plus importante. Merci, vous viendrez nous raconter ça, ce sera dans un peu plus de 5 minutes. L'édito de Christophe Ayad aussi à 18h55. Le tour de la planète est en cours.
Justice will. people. Wow, just a matter of time. I can't wait too much longer. My frustration's near its end. I can't hate 'cause I'm stronger. It's a matter of time. It's a matter of.
Sharon Jones and the Dap King, Matter of Time sur France Inter. Voici Florence Paracuelos.
France Inter.
Good evening and welcome.
Je размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars, Florence, dans les recoins, sous les recoins de la planète, avec ce qui vous a échappé dans l'actualité internationale. On commence par la Tunisie.
La Tunisie serait-elle en train de s'enflammer de nouveau 7 ans après la révolution de Jasmin? Les manifestations se multiplient ces derniers jours. Elles ont tourné à l'émeute la nuit dernière dans plusieurs villes contre les forces de l'ordre. Ici, dans une cité populaire de Tunis où des commerces et des banques ont été pillés. Ce que vous entendez, c'est le son d'une vidéo de Mosaïque FM. À Kasserine, dans le centre du pays, à Sidi Bouzid, d'où était partie la contestation en 2011, et à Terouba, où un manifestant est mort. La police tunisienne explique qu'il était asthmatique. Les militants sur les réseaux sociaux disent qu'il a été écrasé par une voiture de police. La colère, Fabienne, est toujours la même. C'est la situation économique qui ne s'arrange pas, la pauvreté subie et aggravée par la loi de finances 2018, un budget d'austérité pour limiter le déficit. Augmentation de la TVA, création d'une CSG, alourdissement de 25% de l'impôt sur les sociétés. Le pouvoir d'achat, c'est sûr, va encore baisser. Un collectif s'est emparé de cette colère. Nestanaou, qu'attendons-nous en français? Plusieurs de ses membres ont été arrêtés. Il appelle à des rassemblements partout vendredi, pendant que le Premier ministre tunisien appelait ce matin son peuple à faire des sacrifices en ces temps difficiles. D'aucuns répondront qu'ils n'ont jamais cessé d'en faire.
Enfilé aux États-Unis, dans l'Utah, Florence, éternelle Amérique où le puritanisme a encore frappé.
C'était début décembre au nord de Salt Lake City, dans une classe équivalent 6e des élèves de 11-12 ans. Leur prof d'art plastique a décidé de leur donner un cours sur la couleur. Il a rapporté du matériel pédagogique, comme on dit dans les écoles chez nous, de la bibliothèque de l'école en l'occurrence, des reproductions de tableaux en format carte postale. Mais horreur et damnation parmi tous ces tableaux, 4 représentent des femmes nues sous les pinceaux de Modigliani, d'Ingres, de Boucher et d'Agnolo Bronzino, des classiques. On y voit des fesses et des seins. Bah évidemment, ce sont des nus. Sentant que l'affaire est délicate, le prof récupère les 4 images et explique aux élèves qu'ils comprendront quand ils auront l'âge d'aller au musée. Commentaire personnel, à mon avis, il n'y a pas d'âge pour aller au musée, mais bon, ça n'engage que moi. Si je vous raconte cette histoire, vous en doutez bien, c'est qu'il y a eu un problème. Une mère a porté plainte. Le prof a, selon elle, montré des images pornographiques aux enfants.
Comme vous dites, il n'y a pas d'âge pour aller au musée. Hein.
Raison soit louée, le bureau du procureur du comté n'a pas jugé nécessaire de poursuivre. Pas de pornographie dans cette affaire. Sauf que, le prof a été viré de l'école, dehors, au grand dam d'une grande partie de ses élèves et d'un sénateur démocrate de l'Utah, Jim Dabakis, ulcéré. Il pose la question suivante sur Facebook. Est-ce que certains d'entre vous, moralistes, qui ont renvoyé ce professeur d'art, ont déjà été dans un musée? La réponse fait assez peu de doute.
Oui, elle est dans la question. Enfin, à nous, Florence, qui nous plaignons sans cesse de la langue de bois, voire du silence de certains politiques, allons donc faire un tour en Thaïlande pour voir.
En Thaïlande, où on peut être Premier ministre, général, autocrate et facétieux, le Premier ministre Prayut Chan-o-cha a trouvé la parade pour ne pas répondre aux journalistes. Et il l'a présenté hier à la presse, cette parade. Si vous voulez poser des questions sur la politique ou le conflit, dit-il à des journalistes de masser devant le palais du peuple à Bangkok, demandez à ce type. et il pointe une silhouette en carton que ses aides de camp viennent d'apporter. C'est lui, le Premier ministre, grandeur nature, en costume, tout en carton donc. Gêne et rire dans l'assistance, mais c'est à peine une blague puisque Chanocha s'en va, laissant la silhouette en carton derrière le micro. C'est pratique, ça évite de parler des élections à venir, programmées en novembre après moult reports, ça évite de demander quand le futur roi, sorte de hipster tatoué et fêtard qui vit en Bavière, va monter sur le trône alors que son père est mort il y a plus d'un an. Ça évite de parler de la répression politique à l'œuvre depuis le coup d'État de 2014. Le général Premier ministre n'en est pas à son premier coup avec les médias. Il a déjà caressé pendant plusieurs minutes l'oreille d'un technicien preneur de son pendant une conférence de presse. Il a lancé une peau de banane sur des caméramans et menacé d'exécuter n'importe quel journaliste qui critiquerait son gouvernement. Mais c'était de l'humour, évidemment.
Bah oui, mais c'est ce que vous savez bien qu'on peut pas rire avec tout le monde. Allez, merci Florence Paracuelos, on se retrouve demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth,
France Inter.
Et le reportage d'un jour dans le monde nous emmène en Argentine ce soir. Nous sommes à une cérémonie de remise de diplôme, mais pas dans n'importe quel lycée. Autour de nous, il y a surtout des adultes rejetés, exclus de la société, marginalisés parce qu'ils sont travestis ou transsexuels. Et pourtant, vous allez le voir, les lois argentines sont en train d'évoluer plutôt favorablement. Bonsoir Caroline Vic.
Bonsoir.
En Argentine, Caroline, pour Un jour dans le monde, nous sommes dans une école qui a donc ouvert ses portes en 2012 aux transsexuels et aux travestis, pour leur permettre de terminer leurs études secondaires. À la fin, il y a donc le bac. Beaucoup y avaient évidemment renoncé. Et cette école, elle est unique en son genre, reconnue par l'État, Caroline.
C'est un jour solennel au cinquième étage d'un bâtiment de Buenos Aires. L'hymne national retentit. Les meilleurs élèves entrent le drapeau argentin à la main, le visage souriant et le regard fier. Mais malgré tout, quelque peu intimidé par ce moment qui conclut 3 ans de lycée, d'efforts et de dépassement de soi. Dans cette petite salle décorée de photos et de guirlandes aux couleurs de l'arc-en-ciel, chaque élève est appelé par son nom. Le directeur Francisco Quiñones Cuartas leur délivre leur diplôme et fait un discours face aux nouveaux bacheliers.
Vous avez toutes gagné des batailles, vous avez toutes dépassé les barrières. Vous avez avancé dans la conquête de vos droits. Et ça veut dire beaucoup que vous puissiez recevoir votre diplôme aujourd'hui et suivre les rêves que vous avez construits de manière individuelle et collective. On peut les applaudir.
Cette école s'appelle Mocha Celis, du nom d'un travesti assassiné dans les années 90 par la police. Elle existe depuis 2012 et compte actuellement 130 élèves. Il s'agit non seulement d'un établissement scolaire, mais aussi d'une famille qui accueille et réconforte. Daniela, 27 ans.
J'ai dû aller travailler dans la rue à 13 ans et honnêtement, je n'ai pas eu l'opportunité de faire des études. J'avais besoin de me former et je ne trouvais nulle part où aller. Et puis j'ai trouvé cette école formidable. C'est un endroit qui nous rassure, c'est notre maison. La rue, ce n'est plus pour moi. Je sens que je peux faire mieux, que je peux donner plus.
Il y a un chiffre, hein, Caroline, qu'il faut rappeler. Plus de 70% des travestis et transsexuels sont prostitués, car c'est souvent, évidemment, leur unique source de revenus possible.
Oui, éloignée de la famille, rejetée par les amis, la majorité interrompt son cursus scolaire par vivre seule et entre dans le circuit de la prostitution. Selon des chiffres des associations, la moitié commence à se prostituer entre 14 et 18 ans. Lucia est aujourd'hui secrétaire de l'école Mocha Celis. Elle connaît la misère, l'exploitation, l'exclusion, mais elle n'a jamais baissé les bras.
J'étais un petit garçon, je ne savais pas ce qui m'arrivait. À un moment, j'ai tenté de me suicider, je souffrais beaucoup. Mon père me frappait en pensant que ça allait me faire changer. Et je suis parti, j'ai tout abandonné. Je suis devenu transsexuel. J'ai vécu comme je le pouvais, j'ai survécu. Je me suis prostitué aussi. Mais j'ai toujours cherché une alternative. Et s'il n'y en avait pas, eh bien, il fallait bien trouver à manger. Et j'ai toujours voulu terminer le lycée. Je suis allé dans 3 ou 4 écoles et finalement, j'ai eu mon bac.
Ce lycée prépare ses élèves en 3 ans au bac, un cursus qui propose les matières communes, mais aussi d'autres matières plus spécifiques, en rapport notamment avec la santé et les genres. En charge de ces cours, Lourdes Rodés Arias, infirmière et professeure à l'école Mochacelis.
Je donne des cours sur la santé, sur les concepts basiques du corps, les maladies en particulier en cas de transmission sexuelle, sur les méthodes contraceptives aussi. Et puis je donne un autre cours qui s'appelle éducation et genre. On parle des concepts de travesti, transsexuel, transgenre. Même si on fait partie du collectif trans, ce n'est pas toujours facile à comprendre.
Et alors pourtant, Caroline, il y a bien eu un changement de regard et même d'attitude face aux transsexuels en Argentine, grâce notamment à une loi d'identité de genre qui a été votée en 2012, c'était à l'époque de Cristina Kirchner.
Grâce à cette loi, plus de 10 000 transsexuels ont pu changer de nom et donc de genre sur leur carte d'identité. Une loi qui, au-delà de la pièce d'identité, prône l'égalité en droit concernant le travail, l'éducation et la santé. Mais dans les faits, c'est une autre histoire, selon Marianne Lethierry, trésorière de l'école Mochacelis et professeure d'anglais.
Celle qui se prostituait et qui s'appelait Carlos, maintenant elle se prostitue mais elle s'appelle Samantha. Ça oui, ça a aidé. À part ça, je ne vois pas de changement. Si tu veux accéder au système de santé pour réaliser tes modifications corporelles en fonction du genre choisi, selon l'article 11 de la loi, ce n'est pas possible. Car il faut embaucher un avocat, car personne ne veut le faire. Concernant le travail, la loi dit qu'une fois que tu as un prénom féminin, tu peux trouver du travail. Mais non, non. Les législateurs n'ont aucune idée de ce qu'ils disent, car manifestement, ça ne leur est jamais arrivé. Beaucoup ne discriminent pas. Mais je crois que les gens ne savent pas quoi faire. Il y a peu de temps, j'ai participé à un colloque dans un ministère parce qu'une transsexuelle y travaille. Et les employés avaient des questions. Mais il fallait voir les questions. Qu'est-ce que je fais si je la croise dans les toilettes? Ou comment je dois lui parler? Des questions basiques où tu te rends compte que les gens ne réagissent pas par méchanceté mais par ignorance. Pourquoi changer son comportement quand on parle à une transsexuelle? On doit lui parler normalement, c'est un être humain.
Aujourd'hui, le combat des collectifs transsexuels est la loi sur les quotas professionnels, approuvée en 2015 mais toujours pas réglementée. Une sorte de discrimination positive, obligeant les employeurs du secteur public à embaucher 1% de travestis. L'école Mochacelis, elle, ne cesse de se battre pour l'acceptation des transsexuels comme simples êtres humains dans une Argentine qui est de plus en plus ouverte et tolérante. À l'État maintenant de remplir sa part et de transcrire dans les faits l'égalité prônée dans les lois votées par le Congrès.
Caroline Vic en Argentine dans cette école étonnante. Merci beaucoup. Voici Bebel Gilberto, Bim Boum sur France Inter. Pa, 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 pa. s'appelle Bimbo, mais pas Bimboum, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bébel Gilberto, Sandy Dauphin.
France Inter.
Climate change is real.
Fabienne Saint-Es.
It is happening right now. Let us not take this planet for granted.
Bonjour tout le monde.
Sandy Dauphin qui essaie de repeindre la planète en vert, et c'est pas toujours simple. Voici, Sandy, l'une des conséquences les plus visibles du réchauffement climatique et qui affecte les océans. La grande barrière de corail d'Australie change de couleur. Depuis 2 ans, elle blanchit, dites-moi. Ça me paraît très mauvais signe.
C'est pas très bon signe, non?
C'est une étude que vous nous présentez qui a été publiée dans Science, la revue Science, et qui confirme que les épisodes de blanchiment du corail donc sont de plus en plus fréquents et surtout de plus en plus intenses partout dans le monde.
Eh oui, le blanchissement de corail, c'est une colocation qui a mal tourné, car le corail est une symbiose entre un animal, le corail, et une micro-algue qu'on appelle les zooxanthelles. Quand la température de l'eau augmente, le corail stresse, il expulse l'algue qui le nourrit, il dépérit, il blanchit. Des épisodes de blanchissement de récifs sont observés depuis les années 80. Cette étude, publiée donc dans Science, confirme que c'est désormais un phénomène de masse. Elle a étudié 100 récifs des régions tropicales entre 1980 et 2016. Bilan, eh bien, 30% des blanchissements ont été classés comme sévères. Alors la plupart du temps, ces épisodes coïncident avec la présence saisonnière d'El Niño, le courant équatorial chaud. Mais les chercheurs montrent aussi que ce n'est plus le seul responsable. Le réchauffement climatique abîme encore plus les récifs et de plus en plus souvent. Ainsi, avant, les épisodes de blanchissement de corail se produisaient tous les 25-30 ans. Aujourd'hui, c'est plutôt tous les 6 ans, le corail peut se remettre d'une agression. Si la température de l'eau baisse, il reprend des couleurs. Mais au rythme actuel, il n'a plus le temps de se régénérer.
Et alors, si les récifs coralliens disparaissent, il se passe quoi?
Eh bien, c'est tout un écosystème marin qui est menacé, dont dépendent des millions d'habitants le long des côtes. Les récifs coralliens ne représentent que 0,2% de la surface totale des océans. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas grand-chose. Mmh. Et pourtant, c'est une réserve qui concentre 30% de la diversité marine, comme l'explique Denis Allemand, spécialiste du corail, chercheur au Centre scientifique de Monaco.
Si les récifs disparaissent demain, vous barrez 30% de tous les animaux que l'on connaît aujourd'hui dans les mers. Donc c'est un point de vue écologique, biodiversité énorme. Et le deuxième impact, donc ça c'est l'impact écologique, mais plus de récifs, ça veut dire plus de protection des côtes, érosion accrue des côtes, augmentation du niveau de la mer, migration climatique, plus de pêche, plus de nourriture pour les populations, baisse du tourisme, baisse des revenus. Voilà, vous imaginez les conséquences économiques.
Voilà, on imagine bien, oui. Sandy, est-ce qu'il y a des zones qui résistent mieux que d'autres?
Oui, et cela intrigue les chercheurs. Prenez le Pacifique Sud, le récif corallien des Samoa est très touché par le blanchissement des coraux à 90%, alors que la Polynésie française l'est beaucoup moins. Et ce n'est pas le seul exemple, explique Denis Allemand.
Vous avez le golfe Persique, où les températures peuvent monter jusqu'à 35 degrés. Et les espèces de coraux qui sont là, qui sont les mêmes que l'on va retrouver plus au sud, ne blanchissent pas, même à 35 degrés. La mer Rouge est aussi une zone un peu similaire où vous avez des températures élevées avec très peu, pour l'instant, pas encore de blanchissement. On trouve des blanchissements sur les côtes de l'Arabie Saoudite, mais pas dans la partie nord, le golfe d'Aqaba. Donc, ça veut dire que peut-être le corail a des capacités de s'adapter et on commence à étudier les mécanismes de cette adaptation.
Et c'est donc un espoir pour la restauration des récifs abîmés, faire des sortes de boutures de coraux plus résistants au changement climatique.
Voilà, enfin quelque chose d'un peu positif. Merci beaucoup.
Oui, enfin, relativement.
Il y a un espoir, j'ai retenu qu'il y avait un espoir et je compte sur vous pour nous en parler une prochaine fois. Merci beaucoup, on se retrouve donc la semaine prochaine. L'édito du journal Le Monde, c'est tout de suite. Et bonsoir à vous, Christophe Ayal.
Bonsoir.
Et vous êtes tout bronzé, dites-moi. Vous revenez de vacances, bravo.
Et oui, je suis parti au soleil, la chance. Hein.
Oui.
Mais c'était dans le désert. Et là, ce soir, je vais plutôt vous parler d'une île paradisiaque.
Alors, faites-nous rêver. Allez-y, de quelle île voulez-vous nous parler?
Bon, alors, petite devinette. Est-ce Allez-y. Que vous reconnaissez, Fabienne, cette air? Despacito. Bon.
Quiero respirar tu cuello.
Voilà.
Attendez, pour qui me prenez-vous?
Je vois qu'on a affaire à des champions. Et oui, c'est le tube de l'année 2017, Made in Puerto Rico. Cette île paradisiaque des Caraïbes qui aujourd'hui vit un enfer. Il y a plus de 3 mois, l'ouragan Maria a traversé l'île avec des vents de 250 km/h qui ont laissé derrière eux un sillage de mort et de destruction. Tout a été détruit, les maisons, les routes, les canalisations d'eau, les câbles électriques, etc. Bref, c'était la désolation. Pendant 3 semaines, il est resté sans électricité. Depuis, elle est rétablie peu à peu, mais 30 à 50% des foyers n'ont pas encore le courant et il faudra 8 mois avant un retour à la normale. Mais il y a plus grave, Fabienne, c'est le bilan humain.
Alors combien de personnes sont mortes dans ce désastre?
C'est le problème, on ne sait pas exactement et c'est fou. Pendant des semaines, le bilan officiel n'était que de 16 morts. Un chiffre ridiculement sous-estimé dont Donald Trump s'était vanté lors de son passage calamiteux sur l'île en le comparant aux 1800 morts causés par Katrina, l'ouragan qui avait dévasté la Nouvelle-Orléans en 2005. Désormais, les autorités locales reconnaissent 64 décès. Cela reste encore très sous-estimé. Selon Omaya Sosa Pasquale, une journaliste locale qui a enquêté sur le sujet, le bilan direct et indirect de la tempête Maria est de 1 000 000 de morts. Indirect pourquoi ? Parce que nombre de personnes âgées ou de malades chroniques sont décédées des conséquences des pénuries d'eau ou d'électricité. Or, Porto Rico, ce n'est pas un État pauvre des Caraïbes comme la Jamaïque ou Haïti. Porto Rico, c'est les États-Unis. L'île est plus exactement un territoire non incorporé américain, c'est-à-dire un territoire dont les habitants ont la nationalité américaine mais pas la citoyenneté. Ils n'ont pas le droit de vote, ils ne sont pas représentés au Congrès à Washington, et l'île ne fait pas partie de l'Union comme les 50 autres États américains. Donc, mais ils ont des passeports.
Donc la conséquence de ce statut bizarre, Christophe ?
Il y a deux conséquences, Fabienne. La première, c'est que Porto Rico a tous les inconvénients des États-Unis, mais pas ses avantages, c'est-à-dire la solidarité de l'État fédéral en cas de coup dur, comme c'est le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs, on l'a vu par le passé, quand Porto Rico, qui vivait des exemptions fiscales, a perdu cet avantage à partir du milieu des années 1990. Durant les années 2000, les entreprises ont quitté l'île et les dettes se sont accumulées jusqu'à atteindre la somme colossale de 70 milliards de dollars. Et ça, c'est sans les retraites, qui se chiffrent à 55 milliards de dollars. C'est sans compter aussi avec le coût de la reconstruction après l'ouragan Maria, estimé lui à 95 milliards de dollars. Mais les Porto-Ricains ont une liberté, celle de s'installer quand ils le souhaitent aux États-Unis, puisqu'ils ont des passeports américains. On estime que depuis le passage de l'ouragan, 280 000 d'entre eux sont partis rejoindre le continent. C'est énorme, un peu moins de 10% de la population, c'est-à-dire est estimée aujourd'hui à 3,4 millions d'habitants. Voilà. Tout ça, c'est le résultat de l'incurie de l'administration Trump, qui préfère faire la chasse aux immigrants haïtiens ou salvadoriens réfugiés aux États-Unis plutôt que de s'occuper de Porto Rico, ce trou noir de l'Amérique.
Voilà, let it sink back in the ocean, laissez-le bien sombrer dans l'océan, c'est ce qu'on disait déjà dans West Side Story. Merci beaucoup Christophe Ayad, chef du service international du journal Le Monde, dans Un jour dans le monde, le 18-20, bien sûr, continue avec le téléphone sonne, on va parler de SNCF ce soir.